Bonsoir à tous, bienvenue pour cette soirée autour du dernier livre de Christophe Théobald et Philippe Charrue, ce livre sur la messe en si de Bach, un culte en esprit et en vérité. Je crois que vous les connaissez, mais ils sont là sur la table du milieu, Philippe à gauche et Christophe à droite. Et puis pour partager leur lecture et discuter avec eux, nous avons Madame Violaine Angers à gauche et Patrick Goujon à droite. Donc là, visuellement. Puis comme tu vis en Grande-Bretagne, Patrick, les côtés sont un peu inversés. La soirée va se dérouler de la manière suivante. Nous entendrons d'abord la lecture de Violaine Angers, puis celle de Patrick Goujon, qui laisseront sans doute quelques questions auxquelles les deux auteurs pourront répondre par la suite. Et puis vers la fin de la soirée, il y aura un temps pour les questions de la salle. Voilà, je voudrais tout de suite donner la parole à Madame Violaine Angers, qui est ancienne élève de l'École normale supérieure et du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, maître de conférence à l'Université d'Évry-Val-d'Essonne, où elle enseigne la musicologie et l'esthétique musicale, ainsi qu'à l'École polytechnique. Elle est membre du Centre d'études de l'écriture et de l'image, rattaché au Centre d'études et de recherche comparée sur la création. Voilà, de nombreux livres sur le sens de la musique, voir le son. Je vous dis juste les titres pour vous donner envie de lire. Berlioz et la scène, sonate, que me veux-tu? Je vous donne tout de suite la parole.
Merci beaucoup. On m'entend là, c'est bien. Merci pour cette invitation. On n'entend rien. Voilà, comme ça. Oui, ça y est, j'entends. Donc il faut vraiment parler proche du micro. Donc merci pour cette invitation. Je dirais que le travail de Philippe Charrue et de Christophe Théobald est un travail que j'admire énormément. Et donc quand on admire, évidemment, on se sent tout petit. Et être invité à en parler, c'est plus qu'un honneur. Quelque part, c'est bouleversant. Mais c'est aussi un risque, parce que si on dit n'importe quoi sur des choses que l'on admire, c'est mal parti. Donc voilà, je suis cette personne devant vous. Je dirais que Steve, de la messe en si mineur, est le dernier né d'une œuvre monumentale, fondatrice aussi, je crois. C'est la recherche de toute une vie, ancrée sur Jean-Sébastien Bach, bien sûr, mais étoffée par une réflexion très large, d'Augustin à Mozart, à Olivier Messiaen, de la notion de style à celle de postmodernité. Enfin, ça entre dans un contexte très large, mais c'est un livre qui couronne un parcours commencé il y a bien longtemps autour de la troisième partie du clavier, donc l'œuvre pour orgue. Et je voudrais souligner d'emblée l'écriture précise, claire, condensée, particulièrement, je crois, de ce livre, qui a un souci pédagogique affiché par la reprise à chaque fois à la fin des chapitres des éléments importants. Donc dans une langue très accessible, même pour les non-musiciens. Un propos qui ne se perd jamais dans une érudition, au fond pas vraiment nécessaire. Et je dirais, on sent la maîtrise du propos, le fait qu'elle vient en fait d'une vie de maturation. Et c'est assez extraordinaire, je dirais même une vie, en fait deux vies de maturation. Et il y a quelque chose dans ce livre qui est tout à fait unique, je crois. Enfin, en tout cas, je voudrais le dire d'emblée. Alors, comment l'aborder pour commencer? Il me semble d'abord que c'est une grande méditation. Je voudrais dire cela. Il y a d'abord le texte de la messe, évidemment, le texte de la messe latine. Ensuite, il y a la méditation de Jean-Sébastien Bach sur ce texte pour une œuvre dont on pense de plus en plus que c'était sa dernière œuvre. Donc, de ce fait aussi, une sorte de synthèse de la part de Jean-Sébastien Bach sur le sens que prend la messe pour lui et aussi peut-être la musique. Et donc, il y a ensuite la partition de Jean-Sébastien Bach, c'est-à-dire l'écriture. Et derrière l'écriture, il y a donc, comme je le disais, une pensée de la musique dont il hérite, qu'il retravaille, c'est-à-dire donc à la fois la démarche de Jean-Sébastien Bach sur ce qu'est la messe et ce qu'est la musique pour lui. Et puis, il y a encore un troisième niveau de méditation, si je puis dire, puisque cette partition devient support de méditation et aussi d'interprétation pour les auteurs Christophe Théobald et Philippe Charrue, avec donc aussi un horizon qui est celui de l'interprétation, puisqu'il faut jouer, comment, etc. Alors, je vais évidemment caricaturer, mais je vais situer quelques approches possibles de Jean-Sébastien Bach pour essayer de préciser celles-ci. Il y a une première approche qui est de dire la musique fait entendre des soupirs et donc le texte, par exemple, est incarnatus est, est compris de manière triste. Hein. Tim, pam, pam, pam. On soupire et donc c'est triste. Donc c'est une démarche légitime, inattaquable même peut-être, parce qu'elle est fondée sur une conception imitative de la musique, du son, qui est une conception très répandue à l'époque pour comprendre comment la musique signifie. Le son n'a pas de sens en lui-même, mais en prend parce qu'il est capable d'être l'égal d'un discours, et la notion d'imitation, de représentation est présente dans le paysage musical depuis au moins Monteverdi, c'est-à-dire presque 2 siècles. Donc le son a du sens et il est parallèle au sens des mots chantés et il nous les fait comprendre. Alors évidemment c'est beaucoup plus fin que ce que je suis en train de caricaturer. Il y a notamment tout l'apport de la rhétorique, tout l'apport donc de la manière de convaincre par le son, etc., d'aller chercher l'auditeur et la rhétorique, analyse des figures, etc., qui était une approche de l'époque qui en fait est un raffinement de cette approche que j'essaye de lancer de manière un peu caricaturale. Il y a une autre manière de voir les choses qui est de dire, en fait, ces pièces ont une structure tonale extrêmement solide, hein, et donc qui éventuellement explore le total chromatique, etc. Hein. Il y a une logique interne sonore issue de l'organisation des sons, de la tonalité, et donc Jean-Sébastien Bach est le maître de leur exploration, et donc cette musique tient. Non pas parce qu'elle fait image, mais parce qu'elle déploie des structures sonores qui lui donnent une existence autonome. Donc évidemment, les deux orientations ne vont pas très bien ensemble et achoppent sur ce qu'est le langage humain, sur la façon dont il signifie, hein, sur ce qu'est le sens. Et donc là se situe généralement aussi beaucoup d'interprétations de Bach théologien. Je lance ça avec un trait d'union entre les deux. Hein. Il parle de Dieu. Et la musique nous le fait vivre, hein, donc il y a la structure, il y a le nombre, l'imitation, et alors, donc, il est théologien. Voilà, il parle d'incarnatus est, c'est triste, donc, et il nous fait vivre une conception de l'homme. Et donc là se situe une série d'approches historiquement extrêmement intéressantes, très détaillées, les conditions idéologiques, matérielles dans lesquelles vivait Jean-Sébastien Bach. On en sait beaucoup plus sur, on va même jusqu'à détailler les papiers sur lesquels il a écrit, le grain, etc. Mais dans quelle herméneutique tout cela est construit, on ne sait pas très bien, en fait. Et ça achoppe, en fait, sur quelque chose de ce genre. Alors, je voudrais ajouter une dernière approche qui est... plus récente, qui devient en revanche extrêmement présente en ce moment, ce que j'appellerais l'écologie sonore, ou bien le design, hein. C'est-à-dire qu'on dit bon bah la musique c'est un vieux mot, et en fait il y a le son, hein, le design sonore qui habille le texte, et puis donc ensuite on va chercher les cognitivistes pour expliquer scientifiquement l'effet de ce son. Hein. Goldberg, par exemple, pour lequel Bach compose ses variations, cherchait à apaiser le comte Hermann von Kaiserling, qui était sujet aux insomnies. Et donc, les variations et les musiques très épurées, répétitives, sont très favorables à des études cognitives. Hein. Et donc, voilà, pourquoi est-ce que M. Kaisenberg dormait? C'est parce que ça avait un effet sur son cerveau, etc. Et on peut essayer d'expliquer comment ça marchait. Alors, quelque part, c'est tautologique, c'est-à-dire qu'on construit une conception générale de la signification comme système de différence, on construit à partir de là une anthropologie, et on demande aux instruments qui sont issus de tout cela de montrer que cette approche est vraie, hein, est une vraie. Je prononce ce mot vrai. Hein. Alors, toutes ces approches que je caricature évidemment rapidement ici ont un point commun, c'est-à-dire celui d'un certain dualisme, d'une recherche d'efficacité. Hein. J'ai trouvé comment se construit le sens et je vous le prouve. Et la grandeur de la musique vient de l'amplitude de son déploiement, en quelque sorte, de cette chose-là. Alors, l'approche de Christophe Théobald et Philippe Charru prend évidemment son envol à partir de ces analyses, surtout les deux premières, et de tout leur héritage musicologiquement extrêmement riche, qui a été, jusqu'à, je le disais, analyser les écritures du manuscrit, qui a copié quoi, etc. Mais elle part d'autre chose, que je vais caricaturer à nouveau, c'est-à-dire peut-être, je vous soumets en tout cas cela, si Jean-Sébastien Bach est chrétien, luthérien, que serait une approche chrétienne luthérienne de la musique, et inversement, en quoi le fait de composer quelque chose constitue-t-il pour moi, compositeur, une meilleure compréhension de ce qu'est le Christ ? Dieu fait homme jusqu'à la croix. Je crois que là se situe le déplacement en quelque sorte essentiel, enfin en tout cas une manière de dire, on verra s'ils sont d'accord, le déplacement essentiel de leur démarche. C'est une question beaucoup plus exigeante, profonde, pas seulement comment ma musique va rendre ce texte et comment, quelque part, moi, Jean-Sébastien Bach, je comprends ce texte. Mais ce que le texte me permet de comprendre de mon activité de compositeur et jusqu'où, pourquoi écrire une musique pour une messe? Est-ce que c'est pour faire joli? Est-ce que c'est pour gagner ma vie, hein? Mon activité de compositeur, c'est-à-dire en l'occurrence, comment le son, justement, dont nous parlions, dans sa nature même, avec l'intuition de ce qui se passe à la messe, peut être transformé. Hein. Je cite, « L'œuvre musicale et le monde théologique, c'est page 69, qu'elle véhicule, sont inséparables. On ne comprend l'un que par l'autre et inversement. Hein. » C'est ce qui explique l'un, ce n'est pas que l'un explique l'autre, mais que chaque pôle se laisse découvrir par l'autre. Hein. Je cite page 156, « La musique de Bach nous place dans un univers de relations qui engendre le mouvement intérieur de l'œuvre, mouvement identiquement musical et spirituel. » Voilà. Donc cette question est déclinée œuvre par œuvre, je le disais, depuis la troisième partie du clavier. Donc c'est une méthodologie en quelque sorte, autant qu'une question. C'est un chemin dans le christianisme qui n'est pas seulement celui de la messe, mais celui de toute une vie. Alors, je voudrais aussi rapidement, je vois que l'heure tourne, souligner d'emblée que le fait de poser cette question est aussi une question urgente pour aujourd'hui. Hein, pas seulement pour Jean-Sébastien Bach, je vais aller très vite, mais on a quotidiennement, et moi qui enseigne dans des universités... Bon, écoutez madame, moi si je vais à la Hellfest, si je me drogue en allant à une rave party, et alors ? Je ne fais de mal à personne, et au contraire, ça me fait du bien. Hein. Et la musique me fait danser. Hein. Ou bien la question, bon bah, qu'est-ce que valent ces paroles ? Bon, la police tue, très bien, mais les Rolling Stones le disaient en 1970, ils le chantent. Est-ce que le texte suffit à faire condamner une musique ? Hein. Voilà, au nom de quoi ? Comment évaluer une musique ? Ou bien alors, moi, écoutez madame, moi, Freddie Mercury, c'est mon idole, c'est mon dieu, je trouve ça formidable. D'ailleurs, il a 1 million de followers, et donc il y a une sorte de liturgie quand je vais le voir, je participe, c'est clair, c'est formidable, ça donne du sens à ma vie. Bon, c'est profane, c'est laïque, c'est de l'art. C'est de l'art, c'est accessible, c'est pas sacré. Le sacré, je sais pas très bien ce que c'est, puis sacré, je m'en méfie, j'ai peur. Hein. Et donc, il me semble que, voilà, le parcours de Christophe Théal et Philippe Charrue, sans répondre directement à ces questions, par la médiation de Jean-Sébastien Bach, nous permet de réinterpréter, d'aller chercher à nouveau des moyens de répondre à ces faits qui sont quotidiens aujourd'hui. Voilà. Donc c'était une petite introduction. Je voudrais rapidement aussi, et de manière là encore très caricaturale et très rapide, résumer, en tout cas donner quelques points de cette traversée dans la messe en si mineur qu'est le livre. Hein. C'est d'abord un chemin, je crois, c'est un morceau l'un après l'autre, d'après ce livre. Hein. On les prend l'une après l'autre, je cite le titre d'un chapitre, « Une lecture continue de la messe en si ». Hein. Ce n'est pas un résumé, ce n'est pas l'application d'une doctrine, ce n'est pas la musique au service d'une théologie ou bien la théologie éclairée par la musique, c'est un parcours. Un parcours avec Jean-Sébastien Bach que Philippe Charrue et Christophe Théobald nous invitent aussi à suivre, je crois. Et donc, ils mettent en évidence les points forts de la démarche de Bach, ancrée dans son temps, complètement ancrée dans son temps, qui utilise tous les moyens stylistiques possibles à son époque. Alors, il met en œuvre un certain nombre de tensions épistémologiques majeures. Il pense nombre... comme on le pensait depuis le 9e, 10e siècle, hein, dans son abstraction, le nombre comme un lieu de vérité, mais il l'articule aussi à la rhétorique, hein, et au figuralisme justement, et cette articulation est importante. Il pense parodie, c'est-à-dire que Jean-Sébastien Bach reprend un certain nombre de pièces qu'il a déjà écrites, et parfois même des pièces profanes qu'il réinterprète, qu'il réintègre. Hein. Et donc, l'intéressant, Ce n'est pas donc l'opposition sacré-profane, ni déjà écrit rafistolé, si je puis dire, hein, mais c'est, je cite, le rapport paradoxal entre l'ordre extérieur et l'amour, qui est indifférent pour Luther, que ce soit l'un ou l'autre de ses pôles, pourvu, je cite encore, que la charité l'habite. C'est-à-dire que le fait que la musique suive un ordre extérieur, donc éventuellement profane, n'a pas de sens. C'est l'intérêt, c'est le retravail et l'unification de toutes ces pièces à l'intérieur de la démarche de l'œuvre, et les deux auteurs nous le montrent de manière extrêmement précise. Un autre point important, me semble-t-il, à lancer dans le débat, c'est la question du chiasme. Donc le chiasme, vous voyez, ça monte, ça descend. Hein. Une musique monte, une musique descend, puis au milieu, il y a les deux. Hein. Mais évidemment, quand je dis ça, je suis complètement à côté. C'est-à-dire que c'est manifestement cette rencontre entre des éléments contraires, quelque part, se fait à tous les niveaux. Et il nous le montre dans la construction, dans les œuvres, etc. On la retrouve partout. Hein. Et il s'agit de rendre sensible, vécu dans toute son amplitude, non pas sa monte et sa descente, mais un mouvement d'échange entre le très haut et le très proche. Non pas un croisement, mais un changement d'ordre qui cherche à unifier, hein, et où tout se retrouve. Hein. Donc, non pas d'illustrer, mais de faire vivre. Hein. Et justement, dans cette différence entre illustrer et faire vivre, se trouve là tout l'enjeu, je crois, de la démarche de Christophe Théobald et Philippe Charrue. Hein. Qu'est-on amené à vivre, et à quel moment et comment, hein. Aussi, la notion d'architecture, hein, non pas structure et ni organisation, mais manière dont la musique découpe le texte de la messe, le répète, hein, avec des enjeux majeurs, et architecture qui est une lecture, c'est-à-dire une énonciation, un parcours, quelque chose qui du coup est, je cite, fait chair. Hein. Donc c'est pas une architecture, c'est une architecture vécue. Avec deux points que je voudrais là encore mentionner, la notion d'accent qui me semble très intéressante. Hein. Bach ne fait pas de la représentation, mais il pose des accents théologiques, page 93. Donc voilà, on est invité à écouter ces accents. Hein. C'est tout à fait différent que d'écouter la représentation de telle ou telle théorie. Ou bien la notion d'horizon de sens. Je cite page 165, « Une œuvre, en son mouvement intérieur, est unique. C'est pourquoi elle déploie un horizon de sens, que n'épuise jamais une seule interprétation, aussi convaincante qu'elle soit. » Voilà, c'est dans cette démarche, me semble-t-il, alors rapidement esquissée, trop rapidement esquissée, que je crois l'un des points importants de ce livre se marque. Donc, tout cela s'inscrit dans une sensibilité luthérienne de l'époque, ni des effusions presque incontrôlées du piétisme, hein, dramatique, qui mettrait à outrance la subjectivité individuelle en œuvre, ni un rationalisme moralisant des Lumières, pour laquelle, pourvu que le texte soit le bon, au fond, quelque part, la musique n'est pas très essentielle, mais une orthodoxie luthérienne que cette démarche nous permet finalement de mieux comprendre, et notamment parce que cette œuvre, la messe en si, et close. Les auteurs nous montrent, argument très très précis à l'époque, qu'il s'agit bien d'une œuvre pensée dans son entier et non pas une œuvre faite de plusieurs morceaux repris, hein, notamment par le geste final du Danobis Pacem qui clôt la messe et qui en plus reprend, fait écho au Gratia Jasimus. Donc il y a toute une série de choses qui vont dans ce sens. Et du coup, ils la mettent dans le sillage du culte en esprit et en vérité de Luther. Hein. Je cite Luther via Philippe Charrue et Christophe Théobald, « L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » C'est-à-dire qu'il y a bien sûr le culte, la messe, mais il est pédagogique. Il y a bien sûr le latin, pourquoi pas. Il y a aussi la langue vernaculaire, pourquoi pas. Mais il y a une troisième forme de culte possible, je cite encore, qui devrait posséder la vraie manière de l'ordre angélique et ne devrait pas se pratiquer sur la place publique au milieu de tout le peuple, mais il faudrait s'assembler quelque part, à part, dans quelques maisons, pour la prière. Je cite rapidement, il faudrait évidemment y revenir. Donc, éventuellement un culte domestique pour cette messe en si mineur, elle correspondrait à ce culte. Et donc du coup, la question protestant-catholique n'a plus beaucoup de sens. Bien sûr, la messe est latine, son texte est latin, parce que c'est parfaitement possible, parce que aussi Jean-Sébastien Bach s'inscrit dans une tradition, hein, qu'elle soit textuelle ou sonore, et il la revendique, et c'est juste par rapport à une pensée luthérienne, une sensibilité luthérienne. Hein. C'est l'ordinaire catholique, mais avec des accents, encore ce mot accent, spécifique luthérien de l'époque, qui seuls permettront de comprendre la vocalité baroque, son architecture. La question, est-ce que c'est liturgique ou pas liturgique? Est-ce que ça doit servir une liturgie ou est-ce que ça doit au contraire être dans une liturgie en esprit, un culte en esprit, n'a pas non plus vraiment de sens. Hein. On peut imaginer une réalisation liturgique de cette œuvre, puisqu'elle est liturgique en termes textuels, et donc ce serait tout à fait possible. En revanche, c'est très très grand, donc peut-être en plusieurs parties, etc. C'est possible. Mais Jean-Sébastien Bach a manifestement terminé son œuvre, hein, et donc on peut imaginer qu'elle correspondrait dans son esprit à cette démarche pour aller vers le culte en esprit. Troisième opposition qui ne fonctionne pas, l'opposition que je dirais culture cultuelle ou sacré profane, qu'on voit sans arrêt dans tous les médias aujourd'hui, elle n'est plus pertinente. Hein. Est-ce qu'elle est un lieu de musée de concert ou un lieu de culte? Ça n'a pas de sens dans cette approche-là. Voilà. Donc on arrive du coup, et c'est là pour moi le plus nourrissant, à une théologie de la musique qui serait une approche de la parole vue à partir de Luther. Donc comme je le disais, une architecture sonore mais dans laquelle habitée un esprit, hein, et non pas une structure, une architecture faite chair, hein, qui donnerait chair à l'architecture, et puis la question de la voix. La question de la voix, est tout à fait essentielle, c'est-à-dire que d'un côté, Jean-Sébastien Bach utilise tous les styles de son époque, l'écriture polyphonique, l'écriture opératique, représentative, sans les opposer, sans non plus les figer, hein, comme si c'était des styles, un jeu postmoderne, évidemment pas du tout. Hein. Il les retravaille pour les nouer au mieux avec les mots et en construire des échos. Hein. Il y en a un seul, mais et in carna tous est, etc. Agnus Dei, etc. Pardonnez-moi, je vais très vite. Hein. Mais donc l'Agnus Dei, le chant de l'Agnus Dei reprend l'et in carna tous. Donc alors que l'un est plus en style, on va dire polyphonique, l'autre est plus en style opératique, mais les deux sont étroitement liés dans cette opération de comprendre ce que ça veut dire l'agneau de Dieu. Hein. Alors donc c'est là où il faudrait mentionner toute une série d'analyses sur la voix. Les échanges de voix entre soprano 1 et soprano 2, par exemple dans le Christé, qui s'échangent, hein, et qui deviennent ensuite, par exemple dans le Glorificamus, soprano 2, violon, etc. Le rôle de la voix de basse par rapport à la notion de souffle, l'idée de souffle par rapport à l'accomplissement des écritures dans le Christ. Enfin, il y a toute une série d'analyses extrêmement précises, fines, stimulantes sur ce qu'est la voix et qui me semble pour le moment indiscutable. Et donc, où en est la théologie de la voix, du coup? Qu'est-ce que c'est que la voix, me semble-t-il, d'après ce que j'ai compris, hein, la voix de Bach, c'est la voix du Christ. C'est-à-dire, la voix de la science expérimentale mécanique de l'époque, hein, donc comme le corps qui est mécanique, la voix est mécanique, et on lui donne du sens en la nouant de manière active, articulée, dans son corps, avec les idées véhiculées par le texte. Elle trouve son prolongement dans le son instrumental avec lequel elle dialogue, donc c'est un son instrumental qui n'est pas le son instrumental romantique. Et donc cette voix, elle est vraiment une voix du XVIIIe siècle. La voix est ce qui organise l'intérieur et l'extérieur. Donc là, on n'est pas dans le XVIIIe siècle, on est dans une analyse de la voix beaucoup plus large. La voix définit en fait une double position. Elle est là pour la parole et pour la musique. Et dans cet écart entre la parole parlée et incarna, voilà. Donc, dans cet écart entre la voix et la parole, se trouve finalement à la fois tout le dynamisme et la possibilité d'une frange de contact entre les deux. Et c'est là que se noue, enfin, ou que se disent, ou que se travaillent tous les styles. Que les compositeurs réinterprètent cette frange de contact d'un compositeur à l'autre, d'une œuvre à l'autre, cette frange de contact entre la voix et la parole et la musique, ou du moins les mots et le son, hein, tout cela est réinterprété. Et la voix ramène forcément du coup au corps. Au corps vivant, la parole avec les mots sauve, là je cite, la voix des régressions infantiles et insère dans le corps social. Mais en même temps, la voix ramène les mots au corps vivant. Hein, et c'est cet échange sans arrêt repris, sans arrêt réinterprété, qui se situe dans le sillage de la lecture luthérienne et qui nous fait accéder à une théologie de la voix. Je cite page 153, entre le langage et la musique se trouve l'énigme de la voix humaine. Voilà. Et donc la voix de Bach n'est pas finalement, elle n'est pas par exemple la clameur de Jean-Baptiste dans le désert qui fait écho à la clameur divine qui est faite de nombres diffractés à partir de l'unité, et qui est au début de la manifestation divine, créant le monde. Donc ça, c'est une manière de concevoir la voix que l'on trouve dans tout le Moyen-Âge, mais qui est reprise par Jean-Sébastien Bach à l'intérieur d'autres choses, qui intègrent notamment la question de l'instrument. Ce n'est pas non plus l'absence d'autonomie revendiquée entre les mots et les sons, que l'on trouve par exemple dans l'analyse orthodoxe byzantine, et qui refuse aussi du coup l'autonomie d'une œuvre sonore par rapport à la liturgie. On est dans une autre approche du rapport entre le son et les mots, entre la parole et la musique. La voix crée un corps collectif, un corps sonore. Ce n'est pas non plus par le fait que justement elle peut être échangée, et la musique est le lieu de ce corps collectif et de ce corps sonore, mais ce n'est pas non plus, par exemple, la vibration à l'unisson de deux âmes qui se reconnaissent, quelque chose qu'on trouve beaucoup dans l'approche orientale de la musique. Là, on est tout à fait, enfin, ce n'est pas incompatible. Mais on est quand même dans un autre accent, pour reprendre le terme de tout à l'heure. C'est la création d'un corps collectif par la voix, qui donne corps au dire, et qui est individuel aussi bien que collectif. Je pensais, alors là c'est dans le métro, mais ce n'est pas non plus la voix telle qu'on peut la lire, par exemple chez les massorètes, il y a des choses stables, l'écriture hébraïque massorète, il y a les choses stables, que l'on, du coup, on peut voir. Et puis, il y a ce qui est en mouvement. Que ce soit les voyelles, que ce soit les articulations syntaxiques, que ce soit l'emphase que l'on donne au texte, c'est en mouvement. Et donc, ça relève du sonore et de la diction de ce texte. Et la voix, ensemble, en sert tout cela. On n'est pas exactement dans cette opposition-là, à l'intérieur, me semble-t-il, de cette théologie luthérienne de la voix. Mais une fois qu'on a compris ça, c'est extraordinaire, parce que du coup, on est remis dans le sens, si je puis dire, d'un rapport à la voix, à la musique, simple. On n'a pas besoin d'être luthérien pour comprendre ça, si je puis dire. Je dirais que on écoute la musique avec cette compréhension de cette tension fondatrice que Jean-Sébastien Bach travaille à son tour, et du coup ça éclaire le chemin, éventuellement le chemin vers la sensibilité luthérienne que Philippe Charrue et Christophe Théobald nous proposent, dans laquelle ils nous proposent d'entrer d'une manière extrêmement magnifique. Enfin, il y a deux textes de Luther qui nous permettent de comprendre, je n'en sais rien, mais enfin, de sentir avec Luther vers où va. Donc on n'est plus dans Luther, pas Luther, chrétien, etc., catholique, pas catholique, on est dans une démarche de compréhension du sens de la messe. Alors, je voudrais terminer maintenant, si je n'ai pas dit trop de bêtises, sur tout cela, sur quelle question? Pour continuer cette affaire de la voix, c'est-à-dire que cette voix, cette analyse de la voix m'a fait penser à la démocratie chez Rousseau. Hein. Le citoyen de Genève pense la démocratie comme une grande polyphonie sans chef, hein, où chacun s'écoute pour arriver au meilleur collectif. Hein. Donc les pupitres de basse, qui sont très lourds, très sonores, etc., peuvent et doivent écouter la petite soprano qui est là et qui est très fragile. Et tout cela crée une polyphonie, oui, sans chef. Sauf que Rousseau prend le temps de nous dire que c'est trop parfait pour les hommes et que c'est réservé aux dieux. Donc voilà, une analyse de la voix qui le citoyen de Genève n'a pas pour rien baigné dans tout cela, qui va vers cela. Et on pense aussi... J'ai pensé aussi au final de Dialogue des Carmélites qui a été donné encore récemment au Théâtre des Champs-Élysées, qui nous montre alors là plutôt, pour le coup, en acte, et de façon peut-être, c'est l'une des questions encore plus fortes que dans Jean-Sébastien Bach, ce qu'est la communion, hein, ce qu'est, comme dit la prieure, une prière de qualité irréprochable, c'est-à-dire que le final de Dialogue des Carmélites, c'est quoi? C'est une prière, le Salve Regina, avec l'orchestre. On ne peut être qu'à l'opéra, dans ce système-là, avec l'orchestre, avec les chœurs de la foule, et donc par la voix de celle qui meurt. Mais qui crée quand même une, donc avec le corps, la voix est complètement liée au corps, mais qui crée quand même une communauté avec l'ensemble, et éventuellement même avec le bruit de la guillotine qui rentre dedans et qui fait partie de l'œuvre musicale. On a là une représentation, me semble-t-il, sonore, vocale, de ce qu'est la communion. D'où, mais quelques questions. La question du parler. C'est-à-dire que on est là dans une œuvre chantée. Or, justement, on n'a pas dans la liturgie luthérienne, à ma connaissance, toute l'aménagement vocal qu'il y a dans la liturgie catholique, entre le silence, le parler, la cantillation, ce que je vais ou la psalmodie, enfin les récitations, on va dire, les récitations, et puis le chant. Hein. Il y a vraiment, enfin à l'oreille, une rupture extrêmement forte entre les moments chantés et les moments parlés. Et donc du coup, s'il n'y a pas ça, et si cette œuvre est culte en esprit, quel est le rôle de l'officiant? Est-ce que l'officiant est remplacé, si je puis dire, par les interprètes? Est-ce que ce sont ces... Puisque la foule, enfin, nous ne sommes pas invités à chanter des chorales avec eux. Hein, donc, est-ce que ce sont eux les interprètes? Est-ce que... et jusqu'où faut-il prendre le rite au sérieux, en quelque sorte? C'est-à-dire que si c'est donné dans un concert, où se situe l'œuvre par rapport au concert et au rite du concert? Et comment est-ce que ça marche, si je peux... permettre cette question-là. Deuxième question, donc, cette théologie de la voix, certainement, mais du coup, si on prend l'œuvre de cette façon-là, justement par rapport au dialogue des Carmélites dont je parlais à l'instant, de fait, on est dans un corps, et dans un corps collectif. La voix est liée au corps, il n'y a aucun problème avec cela. Hein, et je dirais, nous avons compris aussi que cette vérité... elle est en chemin, hein. Elle ne peut être qu'un chemin, elle ne peut pas être juste, être harponnée, enfin saisie, elle ne peut être que recherchée. Hein. Mais du coup, est-ce que le corps ne doit-il pas quand même être un peu mangeant? J'entends par là, si on veut créer une communion, non pas un public, mais une assemblée, une église, enfin je ne sais pas quel mot vont-ils employer, est-ce que le corps chantant suffit? Est-ce qu'il ne faut pas quand même ajouter un peu le corps mangeant? Et comment et pourquoi? Et troisième question, qui va tout cela va ensemble, cette œuvre, donc du coup, et le livre le montre très très bien, elle prend sa place dans une grande histoire. Dans une grande histoire qui va de l'autonomisation, donc au début, si vous, la messe, c'est l'introïte, c'est le graduel, etc. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est complètement, un peu comme chez les Byzantins dont je parlais à l'instant, complètement lié, qui n'est pas autonome par rapport à la liturgie. Et puis donc vers le XIVe siècle, on a cherché à sortir le commun, on a mis l'accent sur le commun, donc Kyrie, Gloria, Credo, etc., Sanctus Agnus, qui sont les pièces les plus simples finalement parce qu'elles reviennent tout le temps. Hein. À ce moment-là, on a des messes d'auteurs, donc les premières messes d'auteurs avec Machaut, etc. Et Jean-Sébastien Bach se situe avec Luther dans ce contexte-là. Mais d'un coup, est-ce que ce n'est pas quelque part une fuite en avant de la sécularisation? Ou bien est-ce qu'il faut comprendre que cette œuvre, finalement, si c'est un culte en esprit dans un appartement, enfin ou en tout cas dans une maison à part, etc., ce culte n'est rendu finalement que entre les chanteurs et les musiciens et les instrumentistes, c'est eux qui font ça, bon, quelques invités éventuellement, mais pas dans une nature spectaculaire, en quelque sorte, pas dans un domaine spectaculaire. Voilà, c'est ma troisième partie, ma troisième question, pardonnez-moi. Je terminerai par un défi que je vous laisse. Je sais que le livre prochain va être le catéchisme, le petit catéchisme. Voilà, l'Orgelbüchlein. Pardon. Mais en tout cas, mais les petites pièces, 45, pardonnez-moi. Donc j'espère ne pas dévoiler un secret, mais quelque part, c'est les petites, elles sont petites, quelque part, c'est le plus simple et aussi, du coup, le plus difficile. Je veux dire, on comprend très très bien que vous arriviez à cela après toute cette démarche, et le défi que je vous laisse, c'est d'arriver à dire quelque chose du catéchisme pour quelqu'un, un étudiant de premier cycle d'université d'aujourd'hui qui sort de la du système laïque et pour qui, par exemple, une phrase le verbe, comme le verbe a pris chair de la Vierge Marie par l'action du Saint-Esprit. Je comprends rien. Je parle de la Trinité, c'est trinitaire. Il comprend rien. Et le défi, dans l'explication que vous nous donnerez de ces petites pièces, c'est de parler à cet étudiant de 20 ans aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et pour votre invitation.
Voilà, merci beaucoup Violaine Anger pour votre lecture passionnée, les questions tout aussi passionnantes que nous allons garder jusqu'à tout à l'heure. Je donne d'abord la parole à Patrick Goulon, bien connu des étudiants de cette maison où tu as enseigné de nombreuses années. Si j'ose dire, l'histoire et la théologie spirituelle, peut-être, c'est une manière de dire. Et tu es maintenant de l'autre côté de la Manche, en Grande-Bretagne, à Oxford, où tu es fellow à Campion Hall. Nous te donnons la parole pour ta lecture aussi.
Merci, Erwan. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je suis aussi très reconnaissant, et ce n'est pas une formule, à Christophe Théobald et à Philippe Charut de m'avoir invité à rendre compte de ma lecture. Très impressionné aussi parce que Violaine Anger l'a déjà dit, c'est une œuvre, vais-je dire, de votre maturité, mais en tout cas de votre maturation. Pour une anecdote, je crois qu'il y a plus de 40 ans, vous vous retrouviez tous les deux à la tribune de l'orgue de Saint-Ignace, où vous commenciez ces lectures, au fond, de l'œuvre de Bach, Philippe à l'orgue, Christophe... Et Philippe à la parole, peut-être à la flûte aussi, Christophe, de temps en temps. Donc, c'est une œuvre qui a plus de 40 ans de collaboration. Il y a 4 ouvrages consacrés, l'un, on l'a dit tout à l'heure, à la Klavierübung, l'autre au choral de l'autographe de Leipzig, les Passions selon saint Jean, saint Matthieu. On vient de l'apprendre, l'Orgelbüchlein qui va suivre. Il y a d'autres cours et ces livres ne sont que la face immergée, hein, certains d'entre vous le savent, de vos années d'enseignement à deux voies au centre Sèvres, aux facultés Loyola à Paris, et de nombreuses conférences également, des rencontres, y compris avec des ensembles musicaux. Et je suis heureux de voir que Itai Jeline est parmi nous ici aussi ce soir. Et de cette longue collaboration est née une approche que vous nommez interdisciplinaire. Mais en fait, je me disais, à la différence de beaucoup de travaux interdisciplinaires qui juxtaposent et font entendre séparément les disciplines en essayant d'organiser un dialogue et ce que vous pratiquez en fait dans vos cours, vos livres ont la particularité de ne faire entendre qu'une seule voix, celle qui, je dirais, naît de votre écoute mutuelle. C'est vraiment parce que vous vous écoutez l'un l'autre dans vos disciplines que peut naître une écriture qui n'est pas répartie en chapitres, l'un de Christophe, l'autre de Philippe, et même en vous connaissant bien l'un et l'autre dans vos particularités de style, bien malin celui qui arriverait à dire quelle phrase appartient à qui. Voilà, ça peut être le prochain jeu concours des facultés Loyola Paris, mais mais je crois que au-delà de l'anecdote, parce que l'un et l'autre, vous vous attachez tous les deux à la partition musicale et au livret. C'est-à-dire qu'il n'y a pas celui qui s'occuperait de la musique et celui qui s'occuperait du texte, mais bien ensemble de travailler les deux du fait de vos multiples compétences à la fois musicales, théologiques et spirituelles, j'y reviendrai. Et du coup, en vous imposant chacun le travail de recherche historique et de confrontation aux sources que vous fréquentez vous-même, vous nous partagez le fruit de vos recherches et de vos analyses telles qu'elles ont déjà mûri entre vous et dans cette écoute mutuelle de l'œuvre de Jean-Sébastien Bach. Et donc cette longue immersion personnelle, doublement personnelle et collégiale au fond dans l'œuvre de Jean-Sébastien Bach, née de cette longue immersion, née cette voix singulière qui n'est ni double voix ni duo, mais une voix singulière portée par deux corps. Alors, il fallait, je crois, pour arriver à ce type d'ouvrage, vos multiples compétences à chacun, pour tenter de rendre compte de ce que vous aviez appelé dans un autre livre l'esprit créateur de Jean-Sébastien Bach, ou plus précisément l'esprit créateur de la pensée musicale de Jean-Sébastien Bach. Et c'est bien peut-être cela, au fond, la thèse, s'il faut employer ce vocabulaire de votre travail, c'est que Jean-Sébastien Bach a une pensée musicale, une théologie musicale, et Violaine Anger l'a déjà longuement montré. La force de votre ouvrage et de montrer, source à l'appui, la profonde culture théologique de Jean-Sébastien Bach. Alors, je dirais, c'est d'autant plus facile aujourd'hui qu'on connaît la bibliothèque de Jean-Sébastien Bach, et la bibliothèque, j'allais dire, non seulement musicale, mais sa bibliothèque théologique. Et au contraire de beaucoup de présentations qui sont faites aujourd'hui de la messe en si, y compris dans des livrets d'enregistrement, de CD ou des livrets de concerts. Et j'ai en préparant cette présentation, j'en ai reconsulté quelques-uns. On voit bien comment aujourd'hui on est embarrassé en fait par la dimension sinon explicitement croyante, au moins liturgique du texte. Et vous soutenez à l'évidence que Bach a consciemment composé une messe luthérienne sur un texte latin. Alors aujourd'hui, par embarras face à un tel enracinement dans la foi et dans une confession, et plus qu'une confession, un acte de foi, une confession publique, on a vite fait d'élever cette messe au rang d'œuvre supraconfessionnelle, voire œcuménique. Et bon, voilà, un enregistrement récent encore de la messe en si la présente comme une œuvre œcuménique. Alors oui, non, pourquoi pas, c'est pas la question. Parce qu'en fait, cette affirmation, en fait, elle permet le plus souvent aux commentateurs de se passer de toute réflexion finalement sur le sens du texte pour la composition musicale de l'œuvre. Il ne s'agit pas de demander à chaque interprète aujourd'hui, qu'il soit commentateur ou musicien, de s'engager dans un acte de foi, mais de s'interroger sur le sens de ce texte, la messe, pour la composition à laquelle Jean-Sébastien Bach a donné naissance. Et au fond, c'est ce à quoi vous vous attachez. Alors c'est bien, et Violaine Anger nous a montré comment on pouvait situer votre approche dans d'autres approches, c'est bien cette approche singulière de l'œuvre de Bach, hein, qui postule l'unité du geste créateur chez Bach dans un rapport qui allie l'intelligence spirituelle du texte de la messe à l'art de composer la musique. C'est vraiment, Jean-Sébastien Bach fait preuve d'une intelligence spirituelle du texte de la messe et d'un, excusez-moi, j'ai l'air, celui qui dira, comme le disait Patrick Goujon, Jean-Sébastien Bach savait composer de la musique, c'est sûr que j'apporte un élément essentiel à la connaissance universelle. Mais voilà, c'est vraiment d'insister sur le geste concomitant, en fait. Alors, ça me conduit, pour décrire rapidement l'ouvrage, hein, à proposer une première partie d'une grande clarté pour situer cette messe au regard de l'histoire de la messe. Alors, le collègue théologien que je suis dit chapeau, à écrire une histoire de la messe jusqu'au XVIIIe siècle. Ça devrait figurer au moins dans tous les séminaires et facultés de théologie. Ça éviterait beaucoup d'ennuis dans les célébrations liturgiques et d'agacement dans les homélies. Non, bon, parenthèse mise à part, mais c'est vraiment un morceau de genre, si j'ose dire, que vous avez réussi. Parce que, un peu comme Bach qui met des accents, vous savez précisément où mettre l'accent, non seulement en fonction d'une histoire de la messe, on pourrait dire, mais de la manière dont les éléments que vous soulignez sont effectivement ceux que Jean-Sébastien Bach va reprendre dans la composition de cette fameuse messe en si, qui, pour beaucoup de musiciens, et si vous avez, je ne sais pas quelle expérience vous avez de l'audition de cette messe, qui peut être un peu déroutante à première audition, parce que ça, si on n'est pas spontanément à révérer tout ce qu'on entend parce que c'est signé Bach, c'est fait un peu de briquet de broc, a priori, quoi. On entend beaucoup de styles musicaux et on peut se demander, mais qu'est-ce que ce genre-là, qu'est-ce que les grandes trompettes du Gloria viennent faire avec de la polyphonie qui pourrait avoir été écrite à la Renaissance. Donc, vous, parce que vous nous avez, au fond, décrit la palette musicale dont dispose Jean-Sébastien Bach, on peut comprendre ensuite le travail d'unité et d'unification, mais encore plus d'unité, que la composition, au sens le plus fort, hein, de mettre ensemble, de poser ensemble des éléments de manière dynamique, que réalise Jean-Sébastien Bach. Alors, et c'est là qu'on en arrive, je ne vais pas détailler tous ces éléments de la palette musicale, mais c'est là qu'on en arrive au moment de la réforme luthérienne, hein, et de la place singulière que Luther donne lui-même à la musique dans la conversion du fidèle. Et je pense que, là aussi, on l'a dit, et c'est peut-être une porte ouverte, mais Jean-Sébastien Bach ne serait pas Jean-Sébastien Bach s'il n'y avait pas Luther dans le rapport que Luther a lui-même à la musique. Et là, vraiment, vous nous le montrez magistralement, comment, du fait de l'importance que Luther accorde à la musique dans l'éducation spirituelle du croyant, du fidèle, Jean-Sébastien Bach en est un héritier parfait, singulier, hein, bien sûr, mais un héritier, d'où l'expression d'orthodoxie luthérienne. Et en une dizaine de pages que vous consacrez à cette réforme luthérienne, permet vraiment de comprendre votre démarche, hein, ce geste réformateur. Alors on connaît tous, on associe, hein, Luther avec la place centrale de la prédication, donc de la voix parlée. Mais pour Luther, la musique était vraiment la seconde après la prédication, donc cette voix chantée pour la conversion spirituelle du fidèle. Et vous écrivez « La purification du culte divin que Luther appelle de ses vœux trouvera son expression privilégiée dans la prédication avec une mise en valeur du but pédagogique et initiatique de la liturgie. » C'est vrai que spontanément, en tout cas, en plus nous les catholiques, on pense pas que la liturgie est essentielle pour Luther. On le voit surtout du côté prédication. Et en fait, pour Luther, elle est vraiment essentielle. Le fruit attendu, poursuivez-vous, d'une telle purification étant de conduire les fidèles par l'intelligence du cœur. Et au fond, toute votre analyse, toute votre lecture de la messe ainsi montre ce que peut bien vouloir signifier une intelligence du cœur sans tomber dans la mièvrerie ou simplement l'expressionnisme de l'imitation musicale. Et c'est dans les chapitres de cette première partie que vous allez situer plus proprement la messe ainsi et cette fameuse question disputée de l'unité de ce matériau si composite, mais si on n'était pas convaincu à l'audition de la messe en si de son unité, votre livre finit de nous en convaincre. Un des grands mérites de votre démarche, c'est que en citant Jean-Sébastien Bach, effectivement, Violaine nous le disait tout à l'heure, à partir de la qualité du papier, c'est-à-dire la vie de Bach nous a lu comme la vie de peu de musiciens, en réalité. On a, vous citez la lettre de démission de Jean-Sébastien Bach, que Bach envoie au pasteur de Mulhausen, qui était un piétiste, le piétiste, chérit, attend une musique d'expression de l'affectivité, hein, mais qui soit coupé de toute musique profane, y compris de l'orchestre et de l'orgue. Et Bach s'opposait à cette tendance, comme on peut facilement le penser, et il écrit dans sa lettre de démission que vous citez, que lui, Bach, se donnait pour but, je cite, « d'exécuter avec plaisir une musique sacrée, bien réglée, à la gloire de Dieu ». Voilà. Le chant est pour Bach, hein, vous poursuivez, l'expression par excellence de l'homme recréé par l'esprit où s'unissent l'intelligence et le cœur. Hein, l'intelligence qui se laisse travailler par la parole de Dieu et le cœur qui se laisse embraser de l'intérieur. Et la plus claire manifestation, je dirais, de cette ligne directrice est donnée par le recours concomitant, et c'est qu'un exemple, par exemple, ce qu'on appelle au style moderne, le style moderno, et au style antico, bon ça c'est un héritage de Monteverdi, l'un mettant l'accent, comme on l'a dit, sur le mot, en tant qu'il exprime le sentiment du texte, et l'autre, le style antico, soumettant en quelque sorte le texte à la musique, hein, qu'on pense à ces longs mélismes ou vocalismes, si l'on veut, qu'on trouve déjà dans le grégorien. Et en privilégiant avec ce style antico la dimension intelligible de la musique, son abstraction, l'abstraction de sa composition, on va jouer des rapports, des proportions entre les parties qui composent. Il s'agit non plus alors d'émouvoir par la musique, hein, selon le sens du texte, mais de conduire par l'oreille, l'esprit, des choses visibles aux choses invisibles. Et ce que vous montrez, je trouve merveilleusement bien, c'est que la musique de Bach, au fond, ne tranche pas, mais elle compose entre ces styles, entre ces deux polarités, si on veut prendre cela, c'est-à-dire avec une thèse à la fois théologique et anthropologique, c'est que l'œuvre de Dieu en l'homme est d'humaniser l'homme. Et la musique humanise, l'audition de la musique humanise, mais en humanisant, eh bien, elle permet d'accomplir ou de reconnaître que s'accomplit par là équivalemment le travail de Dieu. D'où l'impossibilité, effectivement, si je vous ai pas perdu dans mon raisonnement, d'opposer le sacré et le profane. Si l'œuvre de Dieu c'est d'humaniser, vous voyez bien que l'opposition entre sacré et profane ne vient plus, et que du coup, qui elle-même humanise, on peut bien utiliser de la musique profane pour des fins, pour non pas des fins sacrées, mais pour cette fin qui est la gloire de Dieu, celle-ci étant l'humanisation de l'homme, la séparation entre profane et sacré ne tient plus. Oui, ça c'est, je crois, absolument essentiel et heureux pour nous aujourd'hui, parce que dans des sociétés sécularisées ou post-chrétiennes, si effectivement pour écouter la messe en si ou pour la jouer, il fallait être absolument chrétien ou orthodoxe luthérien, il n'y aurait plus grand monde dans les salles de concert ni dans les orchestres. Or, c'est pas cela, parce que la musique même de Jean-Sébastien Bach porte ce dépassement de la séparation, alors même qu'elle est confessante, mais qu'elle confesse ce Dieu humanisant, pour le dire de cette manière-là. Alors, je vais passer sur quelques exemples, ce qui m'évitera d'avoir à chanter l'une ou l'autre phrase musicale. On n'est pas obligé de donner dans le ridicule à tous les coups. Alors, au centre de votre lecture, il y a aussi quelques questions qui me sont venues, qui sont encore bien confuses ou qu'il faudrait préciser. Et j'espère surtout pas trahir votre pensée qui est vraiment claire dans ce livre, et c'est un vrai bonheur de vous lire. Il y a une notion clé, et Violaine Angers l'a déjà souligné, qui est l'architecture sonore. Et dans une remarquable page de synthèse, vous en donnez un exemple. C'est un des éléments de la construction d'architecture sonore, ou de l'animation plutôt de l'architecture sonore, c'est la relation et la signification des relations des tonalités. Hein, d'ailleurs, comme vous dites, la messe en si mineur, elle aurait pu s'intituler la messe en ré. Mais précisément, elle s'appelle la messe en si, et c'est pas pour rien. Et dans un dialogue assez subtil avec le merveilleux livre de Nicolas Arnoncourt, le discours musical, vous soulignez, comme lui évidemment, la grande homogénéité des tonalités, ordonnées autour du ton principal, de la sous-dominante, de la dominante et des relatifs. Bon, si c'est de l'hébreu ou du charabia pour vous, vous savez tous que si je commence à chanter « J'ai du bon tabac dans ma tabatière », vous n'en aurez pas. Voilà, tout le monde sait finir cette musique, même si on n'a pas les paroles. C'est-à-dire, il faut retomber sur la tonique, en passant par la dominante. Eh bien, Bach organise, de manière plus subtile que « J'ai du bon tabac », la messe en si sur ces jeux de tonalité et de tension. Mais vous montrez, et c'est cela qui est tout à fait intéressant, que les ruptures, mais aussi ce qui s'écarte de ce jeu de tonalité, justement permet de placer les accents. Alors, ce que vous faites à partir du triptyque du Kyrie Christe et Kyrie est absolument fabuleux, avec ce passage du si mineur, de son relatif majeur le ré, et du relatif du fa dièse mineur, qui fait que ce Kyrie ne se finit pas et reste ouvert, fa dièse mineur, et on attend la résolution, qui ne sera pas le si mineur mais l'éclatant ré majeur du Gloria, avec tambour et trompette à la baroque, comme on aime tous entendre, et dans une amplification continue, hein, de ce Gloria jusqu'à au final, tout à fait étonnant. Donc voilà déjà une première chose. Et ce que vous dites très bien, c'est que ce Kyrie, qui est à la fois l'acclamation du Sauveur, hein, Kyrie, Seigneur, mais aussi, et c'est un accent plus luthérien, la demande de pardon. Précisément, on ne peut pas, l'auditeur ne peut pas s'arrêter à la demande de pardon, puisque à la fin du Kyrie, on reste sur ce fa dièse mineur, on ne peut pas rester au milieu de « j'ai du bon tabac ». Il faut retourner à la tabatière. Eh bien, on retourne pas à la tabatière, on va vers le Gloria, on va vers la gloire de Dieu. Et voilà, alors c'est ce genre de lecture, hein, dont vous nous montrez, comment la construction sonore, l'architecture sonore, anime et conduit l'auditeur. Alors, je me suis quand même, et on vous suit, vous dites à un moment donné, alors c'est juste un petit mot comme ça, mais c'est toujours les petits mots qui, non pas qui trahissent, mais qui en disent le plus. Quand on arrive à l'Agnus Dei, bon, vous savez, ce fameux solo d'alto, qui est une page absolument sublime, et vous dites justement, on a scrupule à commenter un air aussi sublime qui fait appel plus à l'intelligence du cœur. Mais au fond, je me dis, mais c'est tout clair, qui aurait dû susciter chez vous le scrupule. Qu'est-ce que je veux dire par là? Voilà, mais vous n'auriez jamais fini le livre, ce qui est fort dommage. Et au fond, ça m'a La question que j'ai, je vais couper dans tout ce que j'avais prévu de dire, mais j'ai 10 minutes encore, je coupe pas. Et là, moi, j'ai été saisi par votre analyse. Tout le parcours qui nous fait passer par ce baroque triomphant, qui déjà dans le Sanctus est vraiment retravaillé. Bon, je vais pas réanalyser l'œuvre avec vous par le Crucifixus, et puis, mais on finit quand même, on finit presque par ce solo. Hein, vous savez, qui est accompagné vraiment par le minimum. Par le continuo, très 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 peu de choses, avec une suspension en plus de l'orchestre, la voix de l'alto absolument à nu, nous fait et les tonalités, hein, c'est le seul morceau en sol mineur, donc c'est la seule partie bémolisée. Vous montrez bien comment on est attiré au plus bas, et c'est quasiment à la fin. Et vous montrez bien comment il fallait nécessairement, toujours selon le principe de « j'ai du bon tabac, il faut retourner à ma tabatière », comment finir quand on est arrivé à cette pièce sublime qui pourrait s'arrêter sur le silence, en fait. Eh bien, Bach joue avec le texte de la messe, extrait la dernière phrase, « Dona nobis pacem », hein, pour en faire un numéro à part, ce qui ne se fait pas habituellement, qui permet de faire revenir le cœur, mais avec des reprises de ce que du Gloria, hein, comme le disait tout à l'heure Violaine, mais où le chemin a été intériorisé et est passé par cette figure de l'agneau immolé, de ce juste, hein, qui est atteint de plein fouet par la violence du monde, mais dont la résurrection a été proclamée auparavant, hein, dans un tonitruant résurrexit. Du credo et du coup qui ouvre à une espérance non pas de la victoire de la force qui pourrait être celle du Gloria. Ce Gloria est absolument exubérant et on est entraîné. C'est un grand moment de pompe musicale, mais on est entraîné musicalement dans la contemplation du mystère de l'offrande de soi. De l'offrande de soi qui est l'offrande de la voix. Il y a l'offrande musicale chez Bach, mais on pourrait dire que cette Agnus Dei, c'est l'offrande de la voix, et de la voix du juste persécuté, ou de celui qu'on contemple plutôt, comme le juste. Alors, les questions qui me viennent, c'est autour justement de cet itinéraire spirituel que la messe en si propose à l'auditeur. Et le sous-titre, hein, de l'ouvrage, comme de cette soirée, c'est culte en esprit et en vérité. Alors, tout au long de votre livre, vous maintenez ouvert cet itinéraire que pourra faire chacun des auditeurs de l'œuvre aujourd'hui, que pourra faire ou ne pas faire. Hein, vraiment, vous maintenez ouvert la possibilité de cet itinéraire. Autrement dit, tout le travail interprétatif que vous faites de la composition et de l'architecture de l'œuvre n'a pas à vos yeux de caractère normatif. Mais je dirais, un peu simplement, et j'espère ne pas vous enfoncer, d'abord il a une visée simplement explicative, au meilleur sens du terme. Vous dépliez la partition, musique et texte inclus, pour comprendre la facture et les raisons de la facture, hein, de la facture, on se comprend, de la composition, des choix compositionnels. Vous montrez les choix que Jean-Sébastien Bach a fait et les raisons de ces choix. Alors la pluralité des styles qui composent la messe et qui du coup composent un tout prend son sens justement à la lumière des décisions identiquement musicales et théologiques que prend Jean-Sébastien Bach. Et tantôt, vous expliquez ces décisions par le caractère de l'orthodoxie luthérienne, tantôt, c'est l'inverse, vous montrez des décisions musicales qui peuvent éclairer l'orthodoxie luthérienne, ou la singularité de l'interprétation que Bach a lui-même de l'orthodoxie luthérienne. Et donc là, on est vraiment au cœur de cet esprit créateur, cette fois-ci celui de Jean-Sébastien Bach. Mais votre lecture va au-delà de ce travail explicatif ou déplicatif, faudrait-il inventer, et vous entrez vraiment dans un travail d'interprétation, on dirait une herméneutique de la tradition, c'est-à-dire comment la messe en si, comment cette messe de Jean-Sébastien Bach fait sens et interprète elle-même la tradition luthérienne et la foi chrétienne. Et du coup, cette messe y acquiert le statut de ce que vous nommez une pédagogie spirituelle, hein, par la mise en œuvre des moyens musicaux et textuels que Jean-Sébastien Bach compose. En vue, et c'est ça que je trouve très intéressant et qui en même temps me laisse avec des questions, en vue de permettre à l'auditeur d'accomplir un parcours intérieur au cours de l'audition de cette messe. Un parcours qui ne s'impose pas, mais qui attend, on pourrait dire ça, l'œuvre attend et peut-être les musiciens attendent l'écoute attentive de l'auditeur, mais non seulement l'écoute attentive, et c'est ça, je crois, la spécificité de votre approche, mais la capacité pour l'auditeur de déchiffrer la signification que prend pour lui ce parcours dans l'œuvre. Il ne s'agit pas simplement d'écouter attentivement, mais encore de faire un pas de plus et de se dire, mais au fond, qu'est-ce que ça me fait que d'écouter la messe en si, pour le dire très simplement. Or, si je vous suis, cette pédagogie spirituelle, elle se joue donc en fait à deux niveaux, hein, comme parcours intérieur accompli au cours de l'audition, qui est que d'abord l'auditeur est invité à se rendre attentif à ce que j'appellerais un double système de signes. Le premier, c'est celui que vous décrivez, que vous déployez, qui est la matière de votre livre, qui mobilise la culture musicale et théologique de Jean-Sébastien Bach et la vôtre, qui est dans se rendre attentif à l'œuvre et à ses accents. Et puis il y a un second niveau d'interprétation qui est de se rendre attentif moi-même comme auditeur à ce que produit cette exposition sensible et intelligible à la musique-texte de Jean-Sébastien Bach. Ouais, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait trois théologies pour entendre le cours répétitif. Il y a les timbales et les trompettes. Que Agnus Dei, bon, agneau de Dieu, même si on n'a pas une grande culture, on peut voir de quoi il s'agit. Donc, ce que votre livre au fond postule, c'est ce double travail de l'auditeur. Alors, je partirais d'une expérience que nous avons peut-être fait un certain nombre d'entre nous en allant écouter cette messe jouée aujourd'hui plutôt dans une salle de concert, parfois dans des églises d'ailleurs, d'être complètement saisi, d'être parfois à l'arrêt, comme dans l'Agnus Dei, ou dans le Domine Deus du Gloria, ce duo absolument incroyable entre un soprano et un ténor, d'être emporté par l'enthousiasme, si vous l'avez pas compris, du Gloria, en tout cas de la première phrase du Gloria, c'est-à-dire on est affecté, altéré par la force de la musique. Et on s'éprouve d'abord comme corps vivant, comme corps sensible et corps vivant. Et ça peut être très très fort, quoi. Moi je me souviens de l'un ou l'autre concert interprétation de cette messe, en particulier dans cet Agnus Dei, où vraiment, quand même, les chefs d'orchestre peuvent s'arrêter de battre la musique. Mmh. C'est limite si l'orchestre ne s'arrête pas de jouer non plus. C'est tellement... la voix, de temps en temps, on va être saisi par la voix, parce que c'est pas rien d'être saisi par la voix. Alors, je me disais, au fond, ce que j'aimerais dans votre livre, c'est qu'il m'inquiète plus. Parce que c'est très curieux d'ailleurs, quand on est saisi par une pièce de musique, on est perdu. Alors quand c'est enthousiaste, On a envie de danser, alors on se lève pas, dommage d'ailleurs, on se lève pas pour danser pendant le Gloria de la messe sans si, mais l'Agnus Dei et d'autres pièces, le Cuitolis, etc. On est quand même saisi. Et on est déstabilisé. On est inquiet, non pas au sens de l'anxiété, mais on ne sait plus très bien où on en est. Parce qu'on est mis face à de l'imprévisible. L'imprévisible de l'exécution. On sait tous, il y a des concerts avec d'excellents musiciens, on applaudit, on est content d'être venu. Bon, puis demain, on passera à autre chose. Puis il y a des concerts, les mêmes musiciens d'ailleurs, mais c'est le lendemain, et on s'en remettra pas pour sa vie. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que... Comment rendre compte de cet imprévisible qui est la part même de tout itinéraire spirituel? Alors évidemment, on ne peut pas l'écrire dans un livre, mais comment penser ce qui se joue là et comment, et c'est ça l'autre question au fond que j'ai, contemporaine, qui rejoint aussi la question de Violaine par une autre porte. Que veut dire aujourd'hui d'éduquer une pédagogie à la musique de Jean-Sébastien Bach? C'est frappant de voir combien aujourd'hui des interprètes, des musiciens prennent le temps de s'adresser à leur public, de parler. Bon, c'est pas une question de parler ou pas parler, hein, mais il y a des manières d'entrer en relation qui sont nouvelles avec un public. Comment on peut éduquer le public, l'auditeur, à précisément, comme j'ai essayé de le montrer, à faire ce travail de second niveau que je crois Jean-Sébastien Bach et Luther présupposent, qui est de dire mais comment on déchiffre ce que la force musicale nous fait, y compris dans sa puissance de déstabilisation, qui fait que la musique a toujours inquiété les autorités religieuses. Et elles ont bien raison. Et on va arrêter avec ça. Moi, j'aime bien finir sur le fait que les autorités religieuses sont inquiètes avec la musique. Un grand merci.
Merci encore, Patrick, pour ta lecture et ces questions. Alors, nous allons donner la parole. Il vous faut peut-être deux micros, même si vous n'avez qu'une voix, pour réagir à ces... assez librement, comme vous le souhaitez, à partir des lectures de Violaine Anger et de Patrick Goujon, et puis des questions qu'ils vous ont posées.
Voilà. D'abord, un grand merci à Violaine et à Patrick. J'étais sûr qu'en vous invitant, ça serait passionnant, et ça l'a été, et avec de bonnes questions. Je voudrais rebondir tout de suite sur la question de Patrick. Le malaise que tu éprouves. Alors, il y a un mot que vous n'avez pas prononcé ni l'un ni l'autre, et qui me paraît pourtant central dans notre livre. Mais c'est pas un reproche. On parle de la dramatique de conversion. La dramatique de conversion. On écoute la musique, elle retentit dans le corps, ça a été très bien dit, au point de soit nous enthousiasmer, soit de nous désoler, ou on ne sait pas quoi faire, on est perdu, tu as dit, etc., etc. C'est le combat spirituel. On n'a pas employé ce mot, on parle de dramatique de conversion. Parce que il y a la question, et toi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu as écouté une musique habitée par une parole, ou une parole habitée par une musique, tu as été affecté, comme tu as dit, effectivement, et après? Alors après, il y a un moment dont vous n'avez pas parlé, parce qu'en fait on en parle peu dans le livre, mais enfin je peux dire ça comme ça, depuis quelques années, me travaille. Il y a un effacement de Jean-Sébastien Bach. C'est vraiment un des musiciens qui nous laisse le plus libre. Il n'y a aucune séduction dans la musique de Bach. Il ne veut pas nous séduire, ça n'existe pas. Si des interprètes se risquent à jouer la séduction, c'est terrible. Alors il s'efface. Ça veut dire quoi? Il nous a amené jusqu'à ce seuil où après, il se retire. Et c'est à toi de débrouiller. Et ça, c'est absolument fondamental dans l'expérience spirituelle. Sinon, on refuse le moment de l'acte de liberté. Alors la musique est très dangereuse parce qu'on peut s'en servir, et je le vois ici ou là aujourd'hui, pour manipuler les gens. Et on connaît très bien, enfin moi je connais pas parce que je pratique pas ce sport, mais en tout cas on voit très bien qu'on peut manipuler une foule avec de la musique, avec des lumières, etc., etc., etc. Il y a des interprétations qui ne sont pas neutres. Alors s'il y a cette volonté-là, on n'est plus du tout dans le spirituel, on n'est plus du tout dans la pratique. Et la pratique pour nous amener à ce seuil où c'est la réponse que chacun peut donner ou ne pas donner quand il voudra et comme il le voudra. Voilà. C'est pour ça que bienheureux malaise qu'on peut éprouver à certains moments. C'est peut-être, alors on peut aussi se dire, bon, mais terminé, tout ça c'est des émotions, ça me passera. C'est pas sûr que ça vous passe. Justement. Si vous avez vraiment entendu la parole. Il y a un petit schéma que je vais me faire dans les cours, mais je ne vais pas le dessiner ici. On peut dire là, le trajet de la voix. Il y a l'extranos. L'extranos, c'est-à-dire ce qui est en dehors de moi. Luther désigne par là la parole de Dieu. Je ne l'ai pas inventée. Que ça me plaise ou pas, c'est pareil, elle existe. Voilà. Alors, je l'entends par mes oreilles. Ça, c'est un premier obstacle. Je vais ouvrir mes oreilles ou pas? Oui, je vais sélectionner. Admettons que je les ouvre. À ce moment-là, ça passe dans la tête. Ça me donne à penser. Le texte, évidemment, mais peut-être la musique aussi. Ça suffit pas. On peut écrire des bouquins sur Bach et n'avoir jamais entendu Bach, en fait. Il faut que ça descende jusqu'au fond du cœur. Et c'est là, dans le cœur, c'est une espèce de laboratoire où se passent des tas de choses, des réactions, voilà, d'attrait, ça bagarre, voilà. On peut pleurer aussi. Il y a un magnifique choral de l'orgue de Buchan, « O Mensch bewein deine Sünde groß », « O homme pleure tes lourds péchés », on pleure. Mais on pleure pas de tristesse, on pleure parce qu'on a été touché, justement, affecté. Mais ça ne suffit pas. Il faut après que par la bouche, je chante et je réponde à celui qui m'a parlé. Donc il y a un circuit de la parole. Mais au dernier moment, vous êtes, qu'est-ce que vous allez faire vous? Et ça, Bach ne vous le dit pas et sa musique ne vous le dira pas. Alors je dis ça parce que j'y suis devenu sensible et que je crois que ça fait partie de l'itinéraire spirituel. Sinon, on ne sait plus où on est.
Oui, quelques remarques. D'abord, je suis vraiment ému par votre manière de lire, je dirais, cet ouvrage et de toucher, je dirais, les points centraux avec lesquels on s'est évidemment battu, qu'on a travaillé, qui nous ont travaillé pendant de très longues années. Et je dirais d'abord, ce mystère de communion que, Wilhelm, tu as évoqué et qui est tout à fait paradoxal, qui rentre tout à fait dans la question qui vient d'être déjà un peu abordée, hein, parce que pour Luther et pour Bach, l'enjeu se fait dans la conscience, dans son grand texte finalement, à la fois je dirais l'hommage à la musique, je vais un tout petit peu le citer pour que vous entendiez un tout petit peu je dirais la voix de Luther, mais aussi dans son grand texte sur la messe allemande, n'est-ce pas, c'est ce qui se passe, je dirais, c'est la résonance, dirait-on aujourd'hui, cette notion qui parcourt la philosophie contemporaine, n'est-ce pas, la notion de résonance, c'est-à-dire on n'a plus le temps, je dirais, de finalement que les choses résonnent à l'intérieur. Et la dramaturgie de la conversion, ce parcours spirituel, nous laisse le temps pour la résonance, je dirais, dans la conscience, et là, chacun est seul. Chacun est seul. Et en même temps, Luther montre, je dirais, la communion vient nécessairement parce qu'on chante ensemble. Et ça, Violaine, tu l'as admirablement souligné. Et donc, c'est utile, voilà. C'est relatif, c'est nécessaire et en même temps, c'est relatif par rapport à ce qui se passe ultimement dans la conscience humaine et que Luther appelle la foi qui vient de l'écoute. Donc il y a cette sorte d'articulation et qui traverse à la fois, je dirais, l'œuvre de Luther. Parfois on dit simplement c'est le fondateur de l'individualisme moderne, Mais en même temps, la liturgie, ça a été aussi dit tout à l'heure, et j'ai dit le parcours spirituel vécu grâce à la liturgie, qui conduit vers ce point mystérieux où chacun est seul avec sa conscience et éventuellement avec Dieu, hein, ce parcours est tout à fait construit chez lui. Et du coup, un livre tel qu'on l'a fait ne peut pas faire les deux choses à la fois. Ça serait tout à fait contradictoire. Alors, ta formule, n'est-ce pas ? Tout l'œuvre aurait pu susciter le scrupule, voilà. Le propre, je dirais, de Bach, c'est progressivement initier à ce scrupule. Progressivement. Et tout d'un coup, quand on arrive à l'agneau de Dieu, alors là, soit on est sourd, ça existe aussi, évidemment, ou le musical, et j'en entends rien, ou il y a quelque chose qui bascule, ce changement d'ordre.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Fuck it. Thank you.
Merci.